Radio Okapi. Grande interview.
C'est toujours un plaisir de vous retrouver pour vous présenter votre magazine Grande Interview. Aujourd'hui, nous recevons pour vous Leïla Zeroudi. Elle est la représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO. Présentation et coordination Kéline Koudé, prise de son Paul Badianyama, supervision Jean-Marc Matouaki. Bienvenue à tous dans votre magazine. Leïla Zeroudi, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, est l'invitée de votre magazine. Dans une interview accordée à Radio Okapi, elle aborde plusieurs sujets d'intérêt national, notamment la situation de la lutte contre le Covid-19, le combat engagé par les autorités congolaises contre l'impunité et la corruption, la jeunesse congolaise, ainsi que la recrudescence de la violence dans certains coins de la RDC. Leïla Zeroudi s'entretient avec Honoré Missenga Kalala. Suivez.
Madame la représentante spéciale, bonjour.
Bonjour.
Merci une fois encore de votre disponibilité. Mais commençons par la crise sanitaire. L'évolution du coronavirus en RDC 6 mois après n'est pas si catastrophique. Sur plus de 9500 cas confirmés jusque le week-end, le tableau donne près de 90% de guérison et moins de 3% de décès. Et depuis un peu plus de 3 semaines maintenant, le pays a progressivement retrouvé une vie normale avec la levée de l'état d'urgence. Quel est votre regard face à ce tableau?
D'abord, bien évidemment, nous nous réjouissons que les scénarios catastrophiques ne sont pas arrivés, pas seulement ici, mais dans toute l'Afrique. Nous nous réjouissons parce que c'est important que cette crise qu'on va traîner avec nous, même si on va un jour avoir un vaccin et un traitement et tout ça, ça prendra beaucoup de temps dans des pays comme la RDC et comme beaucoup de pays en Afrique et au Sud en général, pour vraiment éradiquer ou du moins avoir un traitement efficace, un vaccin efficace. Mais nous nous réjouissons que des mesures ont été prises parce que l'objectif du confinement, l'objectif de toutes les mesures, ce n'est pas que ce soit éternel, c'est de se préparer et de faire face. Restez chez vous, laissez-nous nous préparer, laissez-nous mieux comprendre la maladie, laissez-nous préparer nos hôpitaux et nos capacités pour faire face, pour vous donner les bons conseils. Et après, bien évidemment, la vie doit revenir parce que sinon l'économie va s'arrêter, sinon le pays va s'écrouler. Mais il ne faut pas dire il n'y a rien et on reprend la vie normale. Non, on doit continuer à appliquer les gestes barrières. Dès qu'on sent qu'on a des symptômes, on va faire un test. Moi-même, j'ai senti que j'étais pas bien. J'ai fait un test et il était négatif. Tant mieux. C'est ça qu'il faut garder à l'esprit. Tant mieux. Nous sommes contents que, un, le gouvernement a pu se préparer et a pu imposer un confinement dans l'épicentre. Tant mieux aussi qu'il y a eu des réponses qui ont permis aux gens de guérir. 3% de la létalité, c'est les chiffres du monde. Dans le monde, quand vous prenez le chiffre des 22 millions qui sont aujourd'hui recensé, il y a 3,50% de taux de létalité, donc la RDC n'est ni pire, ni mieux que les autres. Maintenant, il faut quand même ne pas perdre de vue que nous devons rester vigilants, que nous devons faire attention, que nous devons respecter les règles que le gouvernement nous dicte, et surtout pour éviter que le virus se balade sans qu'on se rende compte. Parce qu'il est là. Avant, on disait il arrive de l'étranger, il faut fermer les frontières. Mais maintenant, le virus, il est dans chaque pays du monde. C'est quelque chose qui est devenu local. Et donc, on doit travailler sur une menace locale qui n'est pas aussi grave. Par exemple, l'Ebola, où vous avez 86 cas et vous avez déjà 37 morts, presque 50%. Donc ça, c'est quelque chose qui est terrible parce que 50% des gens meurent. Dans le Covid, c'est 3,50% ou moins, etc. Mais c'est quand même une maladie qui peut emporter des vieux, qui peut emporter même des jeunes qui ont une autre maladie, qui peut emporter des enfants. Donc on doit quand même faire face.
Et alors, madame, la vie reprend progressivement. Comment le leadership de la MONUSCO prépare-t-il également le retour au fonctionnement normal de ces différentes équipes?
Alors, la MONUSCO, bien évidemment, étant dans un pays, doit aussi s'inscrire dans les instructions et dans les directives qui sont données par le pays. Nous avons travaillé avec le gouvernement, avec les gouverneurs dans les provinces, pour nous assurer que, un, la MONUSCO n'est pas elle-même affectée et alors elle ne fait plus son boulot, elle s'occupe de soigner ses malades, ce serait la catastrophe. Deux, fermer la mission et dire aux gens, rentrez chez vous, on reviendra au Congo quand le Congo sera bien. C'était pas une option et on a dit non. Nous restons, nous sommes ici, nous travaillons avec les Congolais, mais nous prenons des mesures. La première, bien évidemment, on avait suspendu toute entrée de l'extérieur. Les staffs qui sont dehors, on leur a dit restez là où vous êtes. Les militaires, les policiers, pas de rotation, etc. Mais c'était pas pour faire ça éternellement, bien évidemment. Donc là aussi, nous nous sommes préparés. Préparés pour avoir des camps d'isolement pour les gens qui viennent de l'extérieur. Des camps d'isolement pour les gens qui sont testés positifs. Nous avons demandé à nos staffs pour le maximum, c'est pas la peine si vous n'êtes pas nécessaire sur le bureau, sur le terrain, travailler de chez vous. Mais ça, ça ne peut pas durer éternellement, bien évidemment. Donc nous nous préparons et nous nous sommes déjà bien préparés pour le retour, disons, à la normalité. Premièrement, nous avons repris les rotations. Comme vous le savez, chacun qui vient de l'extérieur doit aller dans les camps que nous avons mis dans le Nord Kivu, dans le Sud Kivu, dans l'Ituri, là où on a nos troupes pour qu'ils fassent leur quarantaine, surveillée, contrôlée. Nous avons aussi eu le soutien de New York pour qu'avant de venir ici, ils font une quarantaine chez eux. C'est-à-dire ils restent 14 jours chez eux en isolement. D'ailleurs, ça a été prouvé puisque on a eu des troupes qui devaient venir et parce que certains ont testé positif, chez eux, on a retardé le retour. Les Sud-Africains, les Indiens, parce que les pays de leur côté prennent au sérieux parce qu'ils ont peur que s'ils ont des malades, ils vont venir ici, ils vont contaminer leurs troupes. Donc ils font déjà chez eux la quarantaine et le test et quand ils arrivent, par précaution, parce qu'on se dit on sait jamais, alors on le fait aussi. Donc on a commencé, on est en train de travailler, vous avez vu qu'on a eu une rotation des Pakistanais, on a eu une rotation des troupes de l'Afrique du Sud, nous avons commencé maintenant d'autres, donc on revient à la normale pour nos militaires et nos policiers. Nous allons avoir une rotation de la FPU au Sud Kivu, donc nous travaillons sur ça. La deuxième chose, c'est nos staffs civils. La même chose, pour nos staffs civils, vous avez remarqué que nous avons maintenant demandé à nos staffs qui sont dehors, rentrer, parce qu'on n'a pas que des internationaux à l'étranger. Il y a aussi des staffs nationaux qui étaient en vacances, qui vivent à l'étranger ou qui étaient en mission, peu importe. On leur a dit restez, parce qu'on ne voulait pas que quelqu'un ramène la maladie, on n'est pas prêt. Maintenant, on dit à tout le monde, si vous n'avez pas une raison objective, vous devez rentrer. Parce que ceux qui ont continué à porter la mission sur leur dos, ceux-là, ils sont fatigués, ils ont aussi envie de se reposer. Se reposer ici s'ils sont congolais, se reposer à l'étranger s'ils sont des étrangers, pour permettre à ce que la mission continue de travailler. Parce qu'on n'est pas déployé au Congo pour dire, ah, il y a le Covid, on va rester à la maison, quand tout sera fait, on revient voir les Congolais. Non, ça c'est pas acceptable, on perd toute légitimité. Nous sommes là avec les Congolais, nous devons travailler et nous devons être là. Donc nous sommes en train de préparer le retour. Vous avez vu qu'on a mis un vol, que la mission a mis à la disposition de ses staffs. Kinshasa, Goma, Addis, et puis retour pour permettre à ceux qui sont dehors de se regrouper à Addis et de venir. On a aussi utilisé de Kinshasa vers l'ouest de l'Afrique, il y a UNHAS. Dans quelques jours, nous aurons les vols commerciaux qui vont commencer. Donc les gens doivent revenir à leur travail pour permettre à ce que d'autres partent en vacances, prennent leur aranar pour les gens qui sont dans une zone de reste et récupération. Donc tout ça nous permet de travailler, mais sans perdre de vue les risques. Et donc nous continuons à appliquer les règles de distanciation, à porter le masque, à ne pas cacher. Parce que la pire des choses, c'est que quelqu'un est malade ou on lui a dit « tu as les symptômes » et il ne veut pas donner la liste des contacts, il ne veut pas se soumettre au traitement, ça c'est dangereux. Donc on travaille aussi pour rassurer les gens, parce que parfois les gens paniquent, parfois ils ont peur de la stigmatisation. La maladie Covid n'est pas une maladie honteuse. C'est pas une maladie qui va vous stigmatiser à vie, c'est rien du tout. C'est une maladie qui peut être propagée très vite parce que le virus, il se déplace, parce qu'il s'adapte, parce qu'il peut tuer d'autres gens. Peut-être vous, vous êtes jeune, vous êtes en bonne santé, ça va rien vous faire, mais peut-être vous allez tuer votre père, votre mère, votre voisin, votre petit enfant qui est malade, votre femme. Donc c'est pour ça on demande à ce que les gens nous alertent et je saisis cette opportunité aujourd'hui pour dire que moi j'ai mis beaucoup de pression et de demandes sur New York pour que nous ayons en interne, dans la mission, les capacités de faire les tests rapidement, d'avoir les résultats. Et quand nos staffs sont malades ou quand ils ont un doute, on n'a même pas besoin de les envoyer, on le fait en interne. Nous sommes en train de travailler sur ça. J'ai eu des assurances de New York que nous allons avoir les machines et ce qu'il faut pour nous. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça va rassurer nos staffs. Et je voudrais là lancer un message à tous nos staffs. Il n'y a aucune différence entre un international et un national. Donc je ne voudrais pas que le staff national pense qu'ils sont un citoyen de seconde zone. Absolument pas. Donc je voudrais vraiment que nos staffs comprennent. On n'est pas une force d'occupation. On est ensemble. Et je voudrais pas qu'il y ait cette dichotomie entre staff international et staff national. Le staff international vient pour appuyer les valeurs des Nations Unies, qui sont les valeurs des Congolais, qui sont les valeurs de tous les peuples du monde. C'est l'expression de toutes les nations. La RDC est un membre des Nations Unies. Je voudrais que les gens comprennent que notre organisation, elle réussit lorsque nous tous, nous croyons en elle et nous croyons en ses principes et nous les portons et nous voulons les valoriser et les mettre en œuvre. Et les Congolais en ont plus besoin pour leur pays, pour leur peuple, pour leur nation que celui qui vient et qui un jour va partir. Je voudrais vraiment que ce message soit bien entendu par tous nos staffs.
Madame, si on peut changer de sujet, la semaine dernière, le monde a célébré la Journée internationale de la jeunesse, c'est le 12 août. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeunesse congolaise?
D'abord, je dis joyeuse fête, malgré toutes les difficultés. Les jeunes ont l'avenir devant eux. Les jeunes sont l'avenir de chaque nation. Et une nation qui ne s'inscrit pas dans la réalisation des rêves, des objectifs de sa jeunesse, ne peut pas avoir d'avenir, parce que l'avenir, c'est pas nous. Nous, notre jeunesse est derrière nous. L'avenir, c'est eux. Quand je dis eux, c'est aussi elles, c'est-à-dire les femmes et les hommes du futur, ceux qui sont aujourd'hui, vous savez, les plus belles idées dans le monde, les idées d'émancipation, les idées de développement, les idées d'égalité, de lutte contre le racisme, de lutte contre l'injustice, ont été portées par ces jeunes. Si on prend les plus grands leaders du monde, quand ils ont commencé à se battre, c'est les gens qui avaient 20 ans, qui avaient 25 ans, qui avaient parfois 18 ans. Au Congo, d'abord, c'est une population jeune. Je crois que les chiffres sont à 65%. C'est une population qui a de l'avenir. C'est une population qui peut vraiment porter les bonnes valeurs. Certains vont dire, si on fait rien pour ces jeunes, ça devient une bombe à retardement. Mais on doit justement investir dans ces jeunes et on doit ne pas avoir une bombe à retardement, mais avoir une opportunité, la plus grande valeur, la plus grande richesse du Congo. Ce ne sont pas les mines. Bien sûr, les mines sont une opportunité. Le poumon, le deuxième poumon du monde, c'est une opportunité pour la RDC, pour ceux qui se battent pour l'environnement. Tout ce qu'on peut citer comme richesse, qu'on parle de Inga, on parle de toutes les richesses du Congo qui font que ce pays est appelé à devenir un jour le dragon de l'Afrique. Mais ce dragon ne sera pas un dragon et il ne pourra pas sortir un jour si on ne prend pas et on ne construit pas et on ne remplit pas d'espoir cette jeunesse, cette population qui est à 65%, presque les deux tiers de la population, si on ne lui donne pas l'espoir, si on ne l'aide pas à croire dans son pays, à faire les choses pour les autres, à s'inscrire dans une logique de construction de l'État de demain, c'est notre échec. C'est notre échec à nous, c'est pas l'échec de la jeunesse. Mais je dis aux jeunes Congolais, puisque j'ai la chance de parler sur Radio Capi qui est bien écoutée, je dis aux jeunes Congolais, vous avez tout pour vous et vous pouvez aider et vous pouvez construire et vous pouvez changer les dynamiques. Parce que la jeunesse, elle peut aussi être porteuse d'un projet de société qui va construire l'avenir. La jeunesse peut changer les mauvaises habitudes, elle peut créer une nouvelle dynamique, elle peut forcer la classe politique, la classe des investisseurs, la classe des entrepreneurs, tout ça. Elle peut changer, il faut l'aider. Bien sûr, elle ne peut pas le faire par elle-même sans qu'il y ait une volonté politique, changer et ouvrir la porte à l'éducation à tous les jeunes, leur permettre d'accéder à travers le savoir, la formation, l'effort, et pas à travers le népotisme et la corruption et tout ça, mais à travers l'effort, à travers le mérite, à travers l'éducation, pour devenir les leaders de demain, pour devenir ceux qui vont diriger l'armée congolaise, ceux qui vont diriger la police congolaise, ceux qui vont être les leaders des partis politiques. ceux qui vont bien évidemment être les investisseurs de demain en RDC. Donc je dis à tous ces jeunes, parce que comme vous le savez, la journée de cette année, elle a été centrée sur ce slogan, l'engagement des jeunes pour une action mondiale. Le Congo, c'est 9 pays qui l'entourent. Le Congo, comme vous le savez, va bientôt diriger l'Union africaine. Votre président va être le président de l'Union africaine pour la prochaine étape. Alors, si le Congo va envoyer un message d'espoir, un message de changement d'optique, où on se construit, où on regarde, où on n'est pas, on met de côté un tout petit peu l'égoïsme, un tout petit peu le tribalisme. Par exemple, quand je lis des fois, la jeunesse emportée, manipulée, langage de haine, tribal, les Congolais ne sont pas tous ensemble. Chacun s'inscrit dans sa logique. Je suis Hema, je suis Lendu, je suis Nande, je suis Nyanga, je suis Hundu, je suis Banyamulengi, je suis Bushi. Tout ça est une mauvaise chose. Le Congo, c'est dans ses frontières, avec toutes ces populations, et c'est la jeunesse qui doit porter ce message de dire notre avenir, c'est l'avenir de tous, et nous appartenons à ce pays dans ses frontières avec la diversité qui existe. Quand on dit nous sommes tous Congolais, ne veut pas dire on va effacer, on va exclure tout ce qui représente les différences, la diversité identitaire qui existe dans ce pays, la diversité des langues, la diversité des cultures, mais c'est pas contre vous, c'est nous ensemble, chacun ramène quelque chose pour construire la nation unitaire qui va construire le Congo de demain.
Un autre sujet, madame. Les institutions congolaises semblent déterminées à mener un combat acharné contre la corruption. On le voit notamment à travers différentes interpellations amorcées par la justice. Pensez-vous que la corruption qui gangrène ce pays depuis des décennies est l'un des facteurs qui bloque son développement et sa stabilisation, la stabilisation qui est même la raison d'être de la MONUSCO? Quel regard jetez-vous sur ce combat que mènent actuellement les autorités congolaises?
Vous savez, l'impunité, c'est le drame. C'est vraiment le foyer, c'est le marécage où toutes les forces négatives se renforcent et tuent l'État. Vous savez, dans tous les pays, vous avez des crimes, vous avez les mauvais comportements, mais c'est marginal. Pourquoi c'est marginal? C'est pas que les Congolais sont plus mauvais que d'autres peuples, non. C'est pas que les Congolais sont corrompus plus que les autres peuples, absolument pas. Mais si l'impunité est généralisée, s'il n'y a pas d'institutions qui font en sorte que vous pouvez pas toucher à l'argent de l'État, que vous pouvez pas tuer et vous pavaner dans l'impunité, en plus vous allez être récompensé, si vous n'avez pas ces institutions-là, ce qui est dans d'autres pays comme un mal marginal, la criminalité, elle existe, mais elle représente 2-3% dans la société. Et quand vous faites une bêtise, si on découvre ça, vous êtes arrêté, vous êtes jugé, vous êtes condamné. Et donc les autres vont dire, oulala, c'est dangereux, je vais pas toucher à ça. Quand ça se généralise, quand les gens voient qu'il n'y a pas de sanctions, quand on voit des gens qui pillent l'État, qui tuent, qui massacrent, et il leur arrive rien, au contraire, ils vont avoir des grades, ils deviennent des généraux, ils deviennent des ministres, ils deviennent ceci, ben tout le monde se dit, mais pourquoi je vais pas me servir moi aussi? Et donc, ce qui est censé être interdit, puni, devient un geste normal. Et donc, lutter contre l'impunité, l'exemplarité de la peine est importante. Arrêter des gens qui ont commis des crimes graves contre l'économie de l'État, contre les institutions, contre la stabilité, c'est une excellente chose, mais c'est pas suffisant l'exemplarité. L'exemplarité, c'est pour alerter des gens, c'est fini, il y aura pas d'impunité. Mais il faut aussi travailler sur le comment on arrive à s'emparer des richesses de l'État sans que quelqu'un vous arrête au premier geste. C'est-à-dire renforcer les mécanismes qui contrôlent et qui rétablissent, qui vous permettent d'empêcher le mal de se répandre. Une fois qu'il se répand dans le corps, c'est très difficile. Lorsque vous avez un cancer, si vous le prenez au départ et vous soignez la cellule malade, vous allez guérir. Si vous le laissez se répandre dans tout le corps et vous avez une métastase, il n'y a aucun doute que vous allez mourir. Donc c'est exactement la même chose. C'est bien de commencer à envoyer le message, l'impunité est finie. Vous ne pouvez pas voler l'État, vous ne pouvez pas détruire ces institutions, vous ne pouvez pas vous enrichir sur le dos de la majorité de la population qui crève, qui ne reçoit pas le minimum, c'est fini, l'État va prendre des mesures. Mais à côté de ça, nous devons travailler pour empêcher ce genre de pratique de se répandre dans les institutions de l'État. Un État, c'est quoi? Un État, c'est 4 fonctions régaliennes. 4. C'est pas 6, c'est pas 8, c'est pas 9, c'est pas 10. C'est uniquement 4. C'est quoi les 4? C'est une armée professionnelle qui protège les frontières, qui maintient la stabilité. 2, c'est une police qui maintient l'ordre sans violer les droits des citoyens, sans tuer ou massacrer, mais qui maintient chacun dans ses droits. 3, c'est une administration de la justice qui fonctionne, qui rétablit les droits, qui sanctionne ceux qui commettent des violations. 4, c'est une administration qui est aussi au niveau local, au niveau national, qui organise le fonctionnement de l'État, qui veille au respect, au contrôle de ses frontières, contrôle de ses richesses, qui aussi veille à la collecte de l'impôt pour permettre à l'État d'avoir des ressources et de mettre en œuvre les programmes. Tout le reste, l'économie, tout ça, tu peux confier à des privés, tu peux confier à des entreprises étrangères, tu peux avoir des partenariats, tout ça, tout peut se faire. Mais ces fonctions-là, il faut les construire. Et c'est comme ça qu'on construit la lutte contre l'impunité, l'État de droit, et veiller à ce que la justice soit indépendante, à ce que la justice sanctionne, non pas parce que quelqu'un prend le téléphone et appelle le juge et lui dit « fais ça, arrête celui-là, il dérange mes intérêts, celui-là, il faut le libérer parce que c'est mon cousin ou c'est mon ami ». Si la justice continue à recevoir ce genre de coups de téléphone et à plaire à X, Y, on n'a pas de justice. Si on pille l'État et on n'est pas sanctionné, on n'a pas de justice. Si le militaire qui est censé aller protéger la population devient un prédateur, il n'y a pas d'État. Si le policier, à chaque fois qu'il sort pour disperser une foule, il tue les gens, ce n'est plus une police, ça devient une bande de criminels. Donc tout ça, on doit travailler et c'est pour ça que tous, on essaye de faire de notre mieux, appuyer ces fonctions-là, aider le gouvernement qui est motivé, qui a envie d'avancer dans ce sens. Et bien évidemment, nous comptons sur la jeunesse congolaise, sur la société civile, sur les hommes politiques, sur les hommes tout court qui sont dans la vie, qui sont dans l'administration, qui sont dans les partis politiques, de comprendre qu'il n'y a pas de solution individuelle. Regardez l'histoire de ce pays. Combien de gens qui se sont remplis les poches dans des systèmes et qui se sont retrouvés appauvris, misérables, chassés du pays, qui vivent comme des misérables à l'étranger qui rasent les murs, ou qui vivent ici et qui rasent les murs, ou qui ont été tués et qui ont fini en prison. Et est-ce que c'est l'avenir qu'on veut avoir? Est-ce que c'est ça la richesse? Est-ce que c'est ça la stabilité?
Passons maintenant à Madame au volet sécuritaire. Dans un message la semaine dernière, la MONUSCO a encore exprimé ses inquiétudes face à la violence dans les hauts plateaux du Sud Kivu. Vous avez personnellement appelé différentes communautés à privilégier le dialogue et d'autres voies pacifiques. Et qu'est-ce qui, d'après vous, bloquerait ce dialogue communautaire que vous appelez de votre vœu depuis longtemps?
Je pense personnellement qu'il y a d'abord des craintes partagées par toutes les communautés. Vous savez, c'est des communautés qui ont été déstabilisées pendant des décennies et des décennies. Et le recours à la force a été toujours le seul moyen pour régler les problèmes. Des communautés où chacun a sa milice pour aller réagir à une attaque ou attaquer pour pousser l'autre à l'extérieur. Donc cette façon de vivre sur des montagnes, loin de la présence de l'État, l'accès à la terre n'est pas réglementé par une loi claire sur les droits de chacun. Même la nationalité congolaise, elle est contestée à certains. On dit, les Banyamulenge, ah, vous n'êtes pas congolais, vous êtes des rwandophones, etc. Alors que le droit à la nationalité, c'est un droit qui doit être réglementé par la loi, et il est réglementé, et c'est seul l'État congolais qui peut dire qui n'est pas congolais, pas le voisin d'à côté qui décide que moi je ne suis pas congolais ou moi j'ai plus de droits que toi. Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous avez des gens qui vivent dans l'incertitude et l'inquiétude, d'abord pour les minorités qui considèrent qu'on risque de les chasser, qu'on risque de leur dénier leurs droits, etc. Et puis la majorité qui dit « Eh, nous sommes chez nous, nous sommes la majorité » et puis vous avez une minorité qui s'impose à nous, qui fait ceci, qui fait cela. Tout ça, c'est des comportements d'angoisse, de peur, au lieu que ce soit des comportements de rassembler les gens. Parce que l'État, justement, est soit faible, soit totalement absent, et parce que ceux qui vont le représenter là-bas n'ont pas les moyens, ou parfois n'ont pas la volonté, parce que eux-mêmes s'inscrivent dans cette logique communautaire ou tribale. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup encouragé les rencontres entre les communautés. On a beaucoup poussé les communautés à se parler, à discuter, et c'est pas uniquement dans les hauts plateaux, c'est dans les hauts plateaux, c'est dans Fizi, c'est dans Baraka, c'est dans Chabunda, C'est dans le Petit Nord, c'est dans le Grand Nord, dans le Nord Kivu, c'est dans l'Ituri, les Hema, les Lendu, les Alur, dans toutes les zones où vous avez cette angoisse, vous avez cette guerre qui a trop duré, cette manipulation des attributs de l'identité congolaise par des prédateurs, par ceux qui profitent de l'économie de guerre, de l'instabilité, parce que ça les arrange, parce que ça leur permet de s'enrichir sur les dos des autres. Quand vous allez dans les hauts plateaux, vous voyez les Banyamulenge, vous voyez les autres communautés, les Babembe, les Bashi, tous les gens qui constituent cette richesse dans cette province, vous voyez que c'est des pauvres gens. Vous voyez qu'ils sont misérables, vous voyez qu'ils sont loin de tout. Il n'y a pas de route qui arrive jusque là-bas. Ils se bagarrent sur les vaches et sur les pâturages parce qu'on n'a pas réglementé l'accès à la terre pour l'agriculteur, pour l'éleveur, pour celui qui fait autre chose. Lorsque vous avez des communautés qui chacun va créer une milice et il dit « j'ai besoin de cette milice pour me protéger ». Non monsieur, l'État doit vous protéger et doit protéger les autres. Mais l'État doit faire en sorte que les militaires qui sont déployés là-bas, ils sont casernés, ils reçoivent leur salaire, ils vivent avec leur famille. Ce n'est pas facile, mais c'est des priorités. Là où on a besoin de la présence de l'État pour rétablir la stabilité, pour renforcer, et nous sommes là et on appuie. Pas plus tard qu'hier, on m'a appelé pour me dire on doit transporter du soutien pour les FARDC dans les hauts plateaux. J'ai dit faites-le. À Mikenge, j'ai dit faites-le. Parce que nous voulons que l'État congolais, et nous voulons que l'armée congolaise ne soit identifiée à aucun groupe. C'est l'armée de tous les groupes. C'est l'armée de la population congolaise qui vient rétablir l'égalité de droit entre les populations. Le Congo n'a pas besoin de la guerre et si l'État veille à ce que personne ne sera abusé dans ses droits, personne ne conteste le droit à son voisin juste parce qu'il veut s'accaparer de ce qu'il a. Ou bien parce que moi je veux prendre tout ce que vous avez et je vous chasse. Non, nous voulons être ensemble. Nous voulons construire la paix.
Madame la représentante spéciale, je vous dis merci.
Merci beaucoup. Merci de m'avoir donné cette chance de parler à nos staffs, aux Congolais, à tous ceux qui écoutent Radio Okapi. Merci pour les efforts que vous faites et j'espère que nous aurons toujours cette opportunité ouverte pour nous adresser de façon directe aux éditeurs de Radio Okapi. Merci beaucoup.
Grande interview, c'est fini pour aujourd'hui. Merci à Honoré Missenga pour cet entretien avec Leila Zerougui, représentante spéciale du secrétaire général de l'ONU en RDC et chef de la MONUSCO, avec qui il a abordé plusieurs questions, notamment la situation de la pandémie de COVID-19. Jean-Marc Matouaki a supervisé ce programme. Présentation et coordination, Kéline Kouté, prise de son, Paul Badianyama. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet www.radiookapi.net. Bon week-end chez vous et bonne suite de programmes sur la fréquence de la paix.